Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je veux des enfants. Et en même temps, dans le monde qui est le nôtre, j'ai du mal à imaginer en concevoir un. En bref, je suis un peu perdu. Pourquoi choisir de créer une petite chose à laquelle je serai lié toute ma vie? Est-ce que ce serait un des meilleurs choix que je ferais? Ou l'un des plus contraignants? J'ai eu besoin d'en discuter avec d'autres. Vous écoutez un de ces récits, une histoire qui parle de créatures.
Pourrait m'allonger avec et faire un bébé.
Je n'appartiens à personne. Je suis libre.
Bienvenue dans la première intro de Créature. Un petit mot rapide sur ce titre. Créature, c'est le nom que j'ai choisi puisqu'il englobe deux rôles forts dans l'imaginaire de la parentalité. Les enfants, qui sont des créations, et que l'on peut percevoir comme des petites créatures heureuses ou parfois étranges, et, deuxième rôle, les adultes qui ne veulent pas d'enfants, des créatures étranges qui choisissent de ne pas suivre un diktat de société. Ce podcast, il parle des deux mondes que sont le désir d'enfant ou le désir de ne pas avoir d'enfant. Maintenant que cette introduction est faite, je vous propose dans cet épisode d'écouter Anne. Pourquoi questionner Anne ? Parce qu'on se connaît très bien depuis plus de 20 ans, qu'elle a eu 4 enfants en 2 grossesses, qui sont maintenant adultes et que son rapport à la parentalité est inspirant. Quand on a discuté, j'ai commencé par lui demander pourquoi est-ce qu'elle avait voulu des enfants et ça a continué comme ça.
Eh bien, je ne sais pas en fait, parce que quand ils sont arrivés, les premiers, j'ai pas... En fait, je ne les ai pas voulu à ce moment-là. Je m'étais toujours dit que j'aurais des enfants. Aussi parce que à ma génération, on n'était pas nombreuses et nombreux à se poser la question dans l'autre sens. Et donc, c'était évident que j'aurais des enfants, mais c'était surtout que je ne m'étais jamais posé la question de si j'en aurais voulu ou pas voulu, en fait. Donc, c'était évident que j'en aurais. Voilà. Et je m'étais plutôt projetée vers du nombreux. Mais j'avais aucun plan de carrière pour avoir des enfants, aucun. J'avais pas du tout réfléchi. Et voilà, j'ai rencontré François, le père des enfants, et puis c'est avéré que je me suis retrouvée enceinte, mais que c'était pas du tout programmé. Et j'étais en pleine étude, donc voilà, ils sont arrivés, ils sont restés. Mais c'est vrai que je me l'étais pas... Voilà, je ne me l'étais pas programmée. Alors, pourquoi ils sont restés? Ça peut être une sous-question, du coup. Pourquoi ils sont restés? Parce que là, pour le coup, je pense que même si ce n'était pas le projet du moment, en se posant un peu, on a considéré que c'était peut-être un an près, qui est quand même pas rien comme durée, mais... que c'était peut-être OK quand même de garder cette grossesse, parce que même si on n'en avait encore jamais parlé, ça nous a semblé possible que c'était envisageable. Quoi.
Vous n'aviez jamais parlé, avant que tu sois enceinte, de faire des enfants ensemble?
Non, parce que j'ai rencontré François au mois de mars et j'étais enceinte au mois d'avril.
Ok, donc ça fait sens. Ok, et du coup à ce moment-là, donc tu sais que tu fais un test, je sais pas,
je me rends compte que je suis enceinte, ouais.
Et du coup, comment est-ce que la discussion est amenée? Tu lui dis, est-ce que vous vous posez la question de les garder ou pas?
Donc, bah moi je lui dis, moi du coup je me vois face à cette situation que les copines ont pu déjà nous raconter, mais qui m'était jamais arrivée. Voilà, cette situation de se dire, ben, crotte alors, quoi. Voilà, c'était pas prévu. Et donc, oui, ça tourne dans ma tête, les possibilités. Il n'y en a pas 50, mais ça tourne. Par contre, pour François, ça tourne pas beaucoup, parce que lui, il est d'une culture catholique pratiquante, et que du coup l'avortement a priori c'est pas ce qu'il souhaite, Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu le choix et qu'on n'en a pas discuté, mais en tout cas, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui n'avait pas trop de doutes. Et du coup, comme ce doute était plutôt en faveur de garder la grossesse, voilà, elle a été gardée. Peut-être que finalement, ça aurait été le doute sur l'autre facette, bah, peut-être que j'aurais avorté, en fait. Parce qu'en fait, j'avais surtout besoin de soutien. Et que du coup, finalement, bah, le soutien, ouais, je le prenais, quoi. Donc, j'ai choisi aussi sans doute un peu ce qui était important pour moi à ce moment-là. C'était que ça se passe bien, que j'ai pas de... que je ne vive pas un truc difficile, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça s'est passé comme ça.
Et donc, le contexte de François qui te dit qu'il voudrait garder cette grossesse, que toi qui as besoin de soutien, en fait, c'est ça, du coup, qui amène que tu te dises « Ok, alors, ouais. Même si ça fait un mois qu'on se fréquente... Enfin, comment tu le projettes à ce moment-là ?
C'est un peu curieux parce que tu as un peu tout qui te passe par la tête, en fait, parce que tu te dis « Bon, ben, c'est complètement crétin, en fait. Déjà, c'est... comment dire ? Il y a presque... on s'en veut un peu. Enfin, on se dit « Bah merde, on n'a pas fait gaffe » ou « Quelque chose a fait que ça n'a pas pu être protégé à 100%. » Et puis, surtout... Il y a aussi ce côté un peu, comment on appelle ça, ce côté un peu où on se dit, bah tiens, pourquoi pas. Enfin, tu vois, il y a un peu de tout, quoi. Il y a le côté, ah non, nanana, et puis pas du tout, et puis tout d'un coup, bah, et pourquoi pas, après tout, surtout quand on se connaît très peu. Et que ça a début de relation plutôt sympa, ça peut aussi donner des ailes, en fait. Et donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'une famille où on n'avorte pas par principe. Hein, on peut avorter, il n'y a pas de souci. Je suis même aussi d'une famille où il y a eu du traumatisme d'avortement parce que ma grand-mère est décédée en avortant. Donc, à la fois, on a le droit d'avorter, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, il y a quand même un truc qui fait aussi que, ben, bof, c'est resté, tu vois. Et en même temps, en face, il y a quelqu'un qui, lui, dit qu'il va assurer, quoi. Donc, et puis de l'amour, de l'élan, et chez moi, je pense aussi peut-être une manière de me dire, bah tiens, je vais faire un truc concret. Enfin, j'étais en études, j'étais en fin de DEA ou j'étais en première année de doctorat. J'étais en première année de doctorat. Et tu vois, j'étais partie pour 3-4 ans d'un truc flou qui était pas vraiment qui m'intéressait mais qui rapportait pas d'argent. Enfin, c'était, il y avait un contexte où j'étais entre deux, en fait, et cette je m'en rendais pas compte. J'avais passé des années d'adolescence difficile, donc du coup j'étais dans un mieux-être. Donc voilà, il y avait de tout. C'est-à-dire que cette grossesse, elle pouvait s'arrêter parce que pourquoi pas, puisque moi j'avais pas de conviction négative par rapport à ça. Par contre, je savais que ce n'était pas une partie de rigolade d'avorter, donc voilà, je n'avais pas non plus envie de me faire trop de mal. Et comme en face, il y avait plutôt une envie que cette grossesse soit gardée, qu'il y avait une promesse de soutien, ben, ça s'est fait.
C'est ça qui m'impressionne, c'est que ça faisait à peine un mois que vous fréquentiez et tu as cru la promesse de soutien. Tu vois, ça fait confiance.
Ouais, j'ai fait confiance. Ouais. Ouais. Moi, je suis crédule, moi, tu sais.
Ou alors, t'as eu... Ouais, tu l'as
non,
senti,
mais j'y ai
t'as,
cru,
pas eu,
hein.
t'as pas eu de doute
cru,
de cette
équipe-là. Il n'y avait rien qui pouvait me montrer que c'était... Il n'y avait encore rien qui pouvait me montrer que c'était pas fiable. Et d'ailleurs, franchement, cette grossesse... Enfin, François, il a été super, super présent et tout ça. Hein. Donc, ouais. Mais ça, je ne savais pas à l'avance, effectivement. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, j'avais peut-être pas envie de ne pas y croire. Ou je trouvais ça dur aussi d'avorter. Quel âge j'avais ? C'était en 95, donc j'avais 25 ans, 26 ans à peine. J'avais pas 26 encore. J'avais pas non plus 17, 18, 19 ans, ou même encore un peu plus. Voilà. J'avais passé un cap au niveau de mes études. Voilà, c'était pas non plus un affolement général. Le plus fou, c'était effectivement le fait que je connaissais pas François depuis très longtemps, quoi. C'était ça plutôt le plus incroyable finalement.
Est-ce que tu peux me dire quel changement majeur en toi ça a apporté d'avoir des enfants ?
Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Bon, forcément, les premières années, ça change la vie radicalement en termes de rythme, en termes de priorité, en termes de disponibilité. Voilà, surtout que là, il y a eu des jumeaux, donc ça prenait quand même de la place. Ben, je pense que chez moi, ça a fait comme ça, je pense, ça a fait à beaucoup, cette espèce de continuité de soi, en fait, tout en ayant conscience que c'était pas des petits moi-même, que c'était des grands eux-mêmes, ou des petits eux-mêmes au départ. Mais j'ai bien senti que ça m'a évité aussi, enfin, ça m'a permis de m'éloigner de moi, en fait. Et je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais ça a fait ça. Comme je disais, moi, avant, j'avais vraiment eu des années difficiles. Et du coup, ces moments-là avec les enfants, c'était super... Alors, c'était crevant, hein, évidemment. Mais c'était joyeux, quand même. C'était plein de... Bah, c'était l'aventure, hein. C'était vraiment l'aventure. En plus, on était pas très... anxieux dans l'éducation. Moi, je suis anxieuse de caractère, mais j'étais pas du tout anxieuse dans l'éducation avec mes enfants. C'est pour ça que je te dis, ça m'a vraiment permis de m'éloigner des choses qui me pesaient chez moi. Et je suis contente parce que je pense que j'ai transmis le moins possible de ce que j'avais sur le cœur dans l'éducation. Alors, bien sûr, ça s'est transmis quand même autrement, mais dans l'éducation, avec François, on était quand même des parents assez assez tranquilles, quoi. Voilà. Et ça, moi, ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'étais capable de ça, d'être tranquille, quoi.
Tu en doutais, ou en tout cas, tu t'avais pas perçu cette possibilité.
Ouais, je savais pas. Tu sais, en fait, je me rends compte, je savais pas. Là, pour le coup, c'est pas comme si. On avait prémédité, c'est-à-dire bon, alors ce serait bien quelle année ou après quel événement ou le temps qu'on ait un appart. Nous, on n'avait pas d'appart, en fait, hein, quand les enfants sont nés. Enfin, juste pile poil, en fait. François était au chômage. Les enfants sont nés en janvier et je crois qu'on a eu notre appart fin novembre. Tu vois ? Et donc, on avait à peine un appart, on va dire qu'on l'avait, mais c'était juste, quoi. Et avant, on vivait... moi, je vivais un peu chez François, qui avait, lui, un appart. Mais c'était tout petit, quoi, tu vois. Et des fois, j'étais encore chez mes parents. Donc, tu vois, c'était pas prêt. C'était pas prêt du tout. Donc, du coup, c'était quand même, tu vois... c'est l'aventure, quoi.
Mais justement, tu dis c'est l'aventure, alors que tu dis en même temps que tu es d'un caractère anxieux.
Ouais, ouais, ouais.
Donc les deux peuvent plutôt
pas
trop cohabiter.
Oui, oui, bah si, parce que là, si tu veux, tu te retrousses les manches, quoi. Tu sais contre quoi il va falloir, ou avec quoi il va falloir crocher dedans, comme on dit en Bretagne. C'est pas des méandres... je sais pas, psychologique ou tu vois, c'est t'as un bébé, deux bébés, bah t'y vas, quoi. Faut faire des trucs, quoi.
Et donc tu disais sortir de toi.
Ouais, c'est ça.
Donc
ouais.
En fait, même si la situation pourrait être anxiogène,
ouais,
bah la situation faut la gérer.
Et t'as, ouais, deux et là bébés, moi j'ai pas de difficulté dans ces moments là en fait. Ouais, ouais, tu sais, l'anxiété, c'est souvent une affaire d'appréhension. Et une fois que tu es dans le jus, bah, tu n'appréhendes plus, parce que même étymologiquement, ça ne marche pas. Donc, une fois que tu y es, bah, tu n'as rien à appréhender, puisque d'abord, tu es au présent. Donc, tu ne peux pas appréhender. Et puis, il n'y a rien de difficile. Enfin, je veux dire, c'est, c'est juste naturel. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une chose assez naturelle. Donc, alors que ce soit hyper épuisant, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas difficile. Ça, c'est galère. Mais c'est pas difficile. Ouais, c'est les effets qui sont galères, quoi. Peut-être ce qu'on pourrait, j'aurais envie de dire, c'est que ça change tout le temps, en fait. Et que les changements, ils évoluent en fonction des arrivées des enfants, en fonction de leur caractère, en fonction de leur chemin de vie. Et que, en fait, ça m'a... Entre ne pas avoir d'enfants et avoir des enfants, c'est aussi apprendre plein de trucs... tout ce que j'ai appris de plus dans ma, le plus dans ma vie, c'est avec mes enfants, par exemple. Ah oui, je suis sûre que mes études ne m'ont pas appris autant de choses que mes enfants m'ont appris. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Une manière de voir le monde. Et puis, bah, ça a beaucoup évolué. Moi, dans toute mon enfance, mon adolescence, bah, le monde, il a pas beaucoup bougé, quoi. Hein. Bon, ça bougeait forcément, mais c'était pas aussi rapide que tout ce qui a bougé pendant ces 25 dernières années, là, ces 20 dernières années surtout. Et du coup, quand on a des enfants, ou en tout cas de la jeunesse avec nous, parce que ça peut être, ne pas être, ça pourrait aussi ne pas être nos enfants, hein, mais je trouve que du coup, ça nous met en contact avec ce qui se passe, quoi, dehors. Parce que sinon, ça dépend du métier qu'on a, mais on peut aussi assez vite ignorer ce qui se passe à l'extérieur, finalement. Si on n'a pas forcément la curiosité, quelles qu'en soient les raisons, on peut vite être préservé, finalement. Alors que les enfants permettent qu'on ne se préserve pas. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et ça, c'est le côté du changement, mais qui dure. Tu vois, au départ, tu as un espèce de on, enfin, off-on, plutôt, ou on-off, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais plutôt off-on en ce qui me concerne. Et donc, c'est clac-clac, quoi. À chaque fois que je vois les enfants ou à chaque fois que je suis en contact avec eux, il y a quelque chose en moi qui change, qui évolue, qui s'affirme, qui se contrarie, qui me fait dire que bah tiens, peut-être que je vois les choses autrement. Puis des fois, bah, je ne suis pas satisfaite ou je suis un peu en rogne. Donc voilà, je m'interroge aussi. Et en fait, ça, d'être à leur contact, ça fait grandir tout le temps, en fait. Le changement majoritaire, c'est que ça a été des années qui m'ont apporté aussi que je savais faire des choses différentes que les études. Aussi, puisque j'avais un cursus qui avait fonctionné à peu près. Je ne l'ai pas toujours bien vécu, mais de l'extérieur, il matchait le cursus. Voilà. Et du coup, bah, je me retrouvais à faire des trucs que bah, voilà, je ne pensais pas que je ferais tout ça, en fait.
Tout à l'heure, tu disais qu'avoir eu des enfants, en tout cas les premiers, tu avais fait un truc concret.
Ouais. Bah, oui, moi j'aurais voulu faire un métier plus concret, en fait. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. J'étais prof, c'était bien aussi. Et puis j'ai fait de la recherche. Moi, c'était... Tu vois, je faisais de la recherche en pédagogie. Donc comme ça, on pourrait dire que la recherche, ça ne ressemble pas à de l'artisanat. Mais la pédagogie, c'est de l'artisanat, en fait. Tu vois, c'est beaucoup de bricolage. C'est beaucoup de choses à penser, à anticiper pour la progression pédagogique, tout ça. Mais c'est surtout beaucoup de bricolage, beaucoup de choses à construire. Et surtout à notre époque où copier-coller, bah, c'était vraiment avec des ciseaux et du scotch, quoi. Donc c'était ça, j'aimais bien. Mais donc je pense que j'avais déjà besoin de concret, mais que comme j'étais en sortant d'un DEA, que j'étais en doctorat, je partais quand même pour... pas mal d'années de réflexion, de lecture, enfin un truc super intéressant, hein, mais voilà. Et puis peut-être ça me faisait un peu peur et que j'étais quand même contente aussi de faire une pause dans ces années d'études qui étaient longues au bout du bout et que je n'ai jamais reprise au passage.
T'as fait autre chose.
Voilà.
Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose que tu as appris pendant ta parentalité que tu pourrais partager avec des personnes qui ont des jeunes enfants ou qui voudraient avoir des enfants ? Un retour sur expérience concret.
Ce qui me vient, c'est relax, tu vois, mais... Ce qui me vient, c'est...
Mais alors, relax à 4h du matin quand tu n'as pas dormi pendant 3 semaines depuis et que ton mais bébé
ça,
hurle.
Ça, c'est sûr. Moi-même, je suis devenue dingue à cause de ça.
Tu me fais l'avocat du diable. Ouais. Parce que c'est ça qui, me, non, qui peut me faire peur. Vrai.
Mais c'est pas... C'est, ça, c'est... Ça, c'est... Oui, ça, c'est sûr que c'est super dur. Mais c'est pas ça, l'éducation. Ça, c'est pas de bol, hein. Quand on a des enfants qui dorment pas, ça, c'est pas pratique. Mais c'est, l'éducation, c'est pas ça. L'éducation, c'est faire confiance, c'est pas croire tout ce que les autres nous disent, faire avec ce qu'on ressent profondément.
Je pense que ça doit être compliqué. Enfin, je vois là maintenant à l'ère d'Internet et de la parentalité positive. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressources qui existent pour dire comment faire au mieux. Mais que finalement, face à une situation concrète, on y revient. Je ne sais pas à quel point tu peux appliquer cette théorie optimale, à quel point ton enfant finalement... De ce que je comprends, j'ai l'impression que ton enfant, en fait, il a besoin de toi et de sentir que tu prends soin, que c'est relax, comme tu dis.
Bah, les enfants, ils ont besoin du lien. Et ils ont besoin de croire en ce lien, en fait. C'est pour ça qu'on dit bien que parfois, les liens d'attachement n'ont pas été assez nourris pour plein de raisons, à partir de la naissance ou même un peu avant, entre, par exemple, une maman et un enfant, bah, ça peut poser des problèmes. Ça peut mettre des difficultés dans la relation. Ce n'est pas irréversible, mais je veux dire ça. Voilà. Donc, ce lien d'attachement, il est important. En même temps, c'est pareil, c'est aussi important de ne pas que se focaliser là-dessus, parce que c'est sûr que la première fois que tu engueules ton môme, tu te dis « Ah, ça y est, c'est foutu. 10 ans de psycho derrière et tout, de thérapie. » Donc, il y a la pression, en fait. Il y a beaucoup de pression. Hein,
une pression qui vient des autres ou de toi-même, t'as l'impression ?
Je pense que ça vient un peu des deux. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a toujours eu de la pression. Mais maintenant, il y a une pression, de bien faire. Quand moi, j'étais plus jeune et j'étais petite, la pression, c'était, grosso modo, il fallait un peu dresser les mômes, quoi. Donc, tu avais réussi ton coup quand ils disaient bonjour, merci, qu'ils faisaient leur devoir et tout. Je schématise, mais c'était une pression, elle était assez claire, même si elle ne te convenait pas, tu vois. Moi, elle ne me convenait pas et je sais que j'ai souffert de cette pression parce que moi, j'avais envie d'autre chose et que je me sentais décalée, voilà. Mais je voyais bien qu'il y avait deux trucs, c'était assez binaire. Or, maintenant, il y a variété, voilà. Pour bien faire. Mais il faut bien faire. Voilà. Et il faut, à la fois, il faut les écouter, être bienveillant, nanana, et en même temps, il manquerait plus qu'ils ne nous obéissent pas, quoi. Donc, c'est impossible, en fait. C'est une distorse énorme, en fait. Et du coup, on oublie de considérer que ce qui compte, c'est comment se porte le lien. Et comment le parent, lui, il se sent, en fait, avec tout ça. Qu'est-ce que lui, il a envie de faire ? Et puis, il a le droit de se tromper, il a le droit d'expérimenter, il a le droit de patauger, il a le droit de se fâcher, même s'il voudrait faire autrement. Alors, ce n'est pas que c'est un droit de se fâcher, mais une fois qu'il est fâché, en tout cas, il a le droit de s'excuser, il a le droit... Enfin, il y a plein de possibilités. Mais ce n'est pas facile pour les parents. Ils sont perdus, en fait, les jeunes parents. Enfin, les parents de jeunes enfants. Ils sont perdus. Donc moi, ce qui me semble important, c'est d'avoir confiance. Mais c'est qu'après coup qu'on peut dire ça, tu vois. Souvent, c'est les grands-parents, tu sais, qui disent c'est chouette avec les petits-enfants parce qu'on n'a pas la responsabilité. Et c'est pas qu'on leur dit pas aussi de faire attention ou de bien nous parler ou des choses comme ça, mais on sent bien qu'ils ont un poids en moins et je pense que cette responsabilité, elle pèse sur les épaules des parents. Mais moi, je ne la ressentais pas comme ça, tu vois, quand j'étais jeune parent. Je ne l'ai pas ressenti, mais je l'observe maintenant.
Tu n'avais pas peur, quand tu étais jeune maman, de bien faire ?
Ça me faisait de la peine de mal faire, donc je pense que j'avais quand même une idée de ce que c'était que le bien faire, ou en tout cas mieux faire que ce que je faisais. J'aimais pas me fâcher, et je me fâchais. J'aimais pas crier, et je criais, tu vois. Mais ouais, j'avais conscience quand même que j'avais pas envie de crier, que j'avais pas envie de me fâcher. J'avais pas envie de faire du chantage, j'avais pas envie de punir. Ça, c'était très clair. Mais c'était comme je respire, ça me semblait évident. Bon, après, moi, j'avais jamais été punie non plus. Enfin, quand j'étais petite, mes parents, ils étaient... il y avait de la tendresse, quoi. Donc, j'avais pas connu ça non plus.
Mais est-ce que tu l'avais conscientisé ? Tu t'étais dit, un jour, quand j'aurai, si j'ai des enfants... Alors, je ne ferai pas ça, ou c'est, tu dis que c'était naturel, donc est-ce que c'était vraiment naturel ?
Ouais, je pense que je ne l'avais pas du tout conscientisé. Ça s'est fait, quoi. Et par contre, une fois que ça a commencé à se faire, c'est peut-être plus là, tu vois, où je me suis dit, bah, tiens, c'est comme ça que je me débrouille le mieux, c'est comme ça que j'aime bien, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Et du coup, je pense que c'est plus au fur et à mesure que je l'ai conscientisé. Et qu'après ça, c'est devenu... quand même un fil d'Ariane dans l'éducation qu'on a donnée aux enfants, c'est du plus qu'on pouvait, en tout cas, de chérir ce lien-là.
Vous venez d'écouter Créature, un podcast produit, enregistré et monté par
Milan Rousseau.
Retrouvez d'autres récits témoignant d'histoires de créatures sur toutes vos applications de podcast. À bientôt.